RMC.
I am very happy. I am sure with my staff that a good work for this season.
Le Super Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est l'after du lundi sur RMC, à la radio, sur BFM Sport, à la télé. On vous attend au 32-16, bien sûr, pour revenir sur l'ensemble du week-end, que ce soit en Ligue 1, que ce soit à l'étranger. On prend le temps le lundi pendant deux heures de débriefer tout ce qu'on débriefe à chaud pendant le week-end. On se pose un peu plus avec les avis tranchés de Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot. Salut Pierre.
Salut Jean-Louis. Salut Daniel.
Au programme donc, le foot européen évidemment. On ne peut pas faire l'impasse sur Liverpool City, même si on en a parlé hier. On va quand même développer ça.
Ouais, quoique c'est un match qui n'a pas donné quand même.
Il n'y a pas grand chose à dire,
ouais,
tu veux dire?
Ouais, c'était moyen.
Ouais, sans doute, ouais. Philippe Auclair en parlera quand même, et notamment de l'absence de Coutinho désarmé pour Liverpool. On évoquera également le Barça avec Fred Hermel, et puis il y aura toute l'actu italienne, même si ça n'a pas joué ce week-end, allemande également, et puis la Ligue 1. Les questions de l'after tout à l'heure, autour notamment des infos mercato du jour. Il y a un international qui va revenir en Ligue 1 à Saint-Etienne, Paul-Georges Ntep. On se demandera par exemple si
l'international, c'est quand tu as été une fois, même si fait des années, tu gardes le statut. L'international.
Bah bien sûr.
C'est pour savoir. Je sais, mais ça m'étonne.
C'est un international.
Franck Jurietti, dis bonjour. Franck Jurietti, international français. Voilà.
D'accord.
Bah quand il a une sélection.
Est-ce qu'on est sûr de ça?
Mais tu sais quoi? Se présente comme ça? Non, je suis pas sûr.
Est-ce qu'on est sûr qu'il faut réellement toujours dire ça?
Non, c'est vrai, t'as raison.
Mais tu sais quoi, j'aurais bien aimé pouvoir dire ça, moi.
Je sais pas, c'est
vrai. Ils ont raison, les mecs.
Attends. Mais toi, t'as été en catégorie de jeunes, même pas?
Ah oui, si, en jeune, j'ai tout fait, jusqu'à la prime. À l'époque, il y avait une équipe de France à prime.
Et en quoi le fait de.
C'est que la A qui fait que tu peux te dire.
J'ai été. Non, mais parce que c'est pas. J'ai été international, c'est en l'occurrence, ils continuent de l'appeler l'international. Alors qu'il n'y est pas.
Non, mais c'est vrai.
L'ex-international, alors.
C'est comme pour les ministres. Monsieur le ministre, même si le mec est premier ministre depuis 10 ans.
Écoute, je pense que je le dirai plus. Sauf pour les joueurs qui ont arrêté leur carrière, tu vois, l'ancien international, machin,
évidemment,
etc.
Évidemment.
C'est vrai que quand t'es en activité, t'y es plus depuis 4 ans.
Mais pour une tête, tu peux le dire. L'ancien international, il l'était, mais
il a peut-être revenir.
Non, mais il est plus dans le groupe. Et ben, alors là, il sera,
un futur international.
Okay, il le sera faut de gravité plus ou moins autour. Bon. On parlera d'Entep, en tout cas. C'est ce que je voulais quand même vous dire. Ouais. C'est un genre de foot qui va revenir en Ligue 1.
Ça, on est sûr.
Ça, c'est bon, ouais. Enfin, est-ce que c'est un genre de foot? Ça dépend des certains.
Quand même.
Attendez,
respecte un petit peu, c'est pas.
Non mais bien sûr, c'est un joueur de foot, mais chacun a ses,
c'est un bon joueur de
a
foot,
ses idées aussi sur le foot. Et t'es pas obligé d'être fan non plus d'Entep.
Non, sans être fan. Style. Mais c'est
ça reste un joueur de foot, oui. C'est pas ça que je voulais dire.
Il y a pas mal qui aimerait avoir son niveau. Quand même.
Avis tranché à venir de Pierre sur l'OM également, à ne pas rater. Et on commence par l'avis tranché de Daniel qui va concerner l'arbitrage, tout ce qu'on a vu pendant le week-end. Non, pas tout le temps.
Ah bon? Ok, d'accord.
Mais là, oui. Mais alors, avant la vie tranchée de Daniel, je donne quand même les infos sur l'affaire Chaperon, sur le Chaperon Gate. Mmh. Est-ce que ça, tu veux qu'on arrête aussi de dire Gate à la fin, après chaque affaire?
Ça me fait marrer.
Moi aussi.
Ça me fait marrer. Ça, pour le coup, ça me fait marrer parce que je sens qu'il y a toujours un peu d'ironie derrière.
C'est ça.
Et puis les gens ont complètement oublié à quoi ça faisait réellement référence, quoi.
Bah, au Watergate.
Ouais, mais bon, c'est vieux.
C'est vrai, exactement.
Ah, bah, tu veux faire un sondage pour savoir ce que c'est que le Watergate? À mon avis, il y a un paquet qui savent plus. Hein.
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver plus ridicule? Le croque-en-jambe gate? Sur Chaperon?
Non, mais moi, le Chaperon gate, ça me fait marrer.
Aujourd'hui, Tony Chaperon s'est excusé, déjà, pour son.
Très bien.
Alors, comment on qualifie ça? Coup de pied, tentative de croche-pied, jambe tendue, comme il a dit. Comme on veut. En tout cas, il s'est excusé auprès de Diego Carlos et il a publié un communiqué qu'il a transmis à la FP. Il regrette un geste maladroit et inapproprié. J'ai été percuté par Diego Carlos. Ouais. À l'occasion de ce choc, j'ai ressenti une vive douleur sur une blessure récente. Dans un mauvais réflexe, j'ai tendu ma jambe vers le joueur, a-t-il donc indiqué. Et puis la direction technique de l'arbitrage a annoncé l'avoir il faut pas dire suspendu parce que c'est la commission de discipline qui se saisira de l'affaire jeudi, qui pourra le suspendre ou non, mais la direction technique de l'arbitrage l'a retiré des désignations à venir. Pascal Garibian était dans Team Duga, le patron de cette DTA. Il a indiqué que c'était pas le bon contexte, c'était une preuve de bon sens de faire ça. Il n'était pas forcément en état aujourd'hui d'arbitrer des matchs, d'autant que ça arrive très vite, hein, puisqu'il y a une journée de Ligue 1 en semaine. Et puis, autre info, Diego Carlos pourra jouer à Toulouse mercredi, car donc son deuxième carton jaune qu'il prend ans suite à cette histoire, lui a été retiré. Donc voilà, a priori...
L'essentiel est là, déjà.
L'essentiel est là, les choses ont été bien gérées aujourd'hui.
Ah bah pour moi l'essentiel c'était voilà, c'était un qui s'excuse, même si le mot inapproprié je le trouve un peu moyen parce que y a pas de geste approprié là-dedans, il doit pas y avoir de geste du tout normalement. Mais bon bref, ouais. c'est pas très grave, l'essentiel c'est qu'il se fasse des excuses déjà, ça.
Mais non, mais
pour
moi c'est l'essentiel. Ce geste est inapproprié Pierre, tu vas chercher la petite bête.
Ouais, je trouve ce mot presque marrant là-dedans dans les excuses. Oui, mais bon bref, ça c'est effectivement c'est chercher la petite bête, on est d'accord, il s'est excusé, pour moi c'était le principal et c'était la première chose à faire, que le joueur soit banni, enfin pas banni, pardon, que son carton rouge soit annulé, blanchi, merci. Voilà, c'était l'essentiel. Après la sanction, elle sera ce qu'elle sera. Voilà, c'est pas très important, sauf pour lui.
Oui, effectivement, lui qui arrête sa carrière à la fin de l'année.
Hein. Oui, voilà, faut pas que ce soit trop non plus, quoi.
Bon, on verra si.
Comme un joueur qui a fait un mauvais geste un jour, voilà, quelques matchs, allez.
Ouais. Non, ben on suivra ça jeudi. Évidemment, le dossier sera peut-être mis en instruction. Il y aura une sanction un peu plus tard. En tout cas,
ou alors ils vont prendre 6 mois à se décider. Comme ça, il sera à la retraite.
Ah, tu crois? En tout cas, Pascal Garibian a bien tenu à rappeler pas mal de choses. Hein. D'ailleurs, vous pourrez réécouter ça sur le podcast de Team Duga. Mais il faut pas faire d'amalgame avec le travail qui est fait, parce que ce qu'on a beaucoup dit, c'est est-ce que ça met en lumière les problèmes entre joueurs et arbitres dans notre championnat de France? Pascal Garibian dit on progresse beaucoup dans cette relation. Il y a un gros travail qui est fait auprès des jeunes arbitres et c'est pas cet incident-là, cet épiphénomène, il a utilisé ce mot-là, qui doit tout balayer. Donc voilà.
Exactement, comme quand il y a un joueur qui pète un plomb et qui fait un très mauvais geste et qu'on réclame, enfin en tout cas qu'on demande à ce que tous les joueurs de foot ne soient pas mis dans la même, voilà, dans la même case.
Jingle Riolo, on y va.
Non, j'ai pas touché.
Non, là-dessus, vous êtes en retard. Vous avez le pied au niveau de la chaussure.
Non, j'ai pas touché.
Je n'en veux plus. C'est clair?
Voilà. Monsieur Lanois, extrait de Monsieur Lanois, lorsqu'on l'avait entendu.
On a mis au placard le pauvre Monsieur Lanois. J'aimais bien moi cet arbitre. Ah oui, bon alors les amis, vous étiez là hier soir, donc il paraît pas. Donc j'ai craqué hier soir.
Hein? Ah t'es monté dans les tours. Quoi.
Ouais c'est vrai. Ok. Alors on va faire un truc simple. Je l'ai déjà fait sur Twitter cet après-midi. Je retire de mon propos d'hier la grossièreté, la vulgarité. Ok. Sur le fond, je garde tout. Mais tout, mais à 1000%. J'ai craqué parce que j'ai vu un arbitre péter les plombs, faire n'importe quoi, et j'ai vu le monde du foot prêt à l'assassiner. En 2 secondes. Partout. Tout le monde. Qui? Bah, tous ceux qui passent leur temps à hurler chaque semaine sur les arbitres, tous ceux qui font des émissions foot, où l'analyse du jeu, ça consiste uniquement à flaguer l'arbitre, faire un quart d'heure sur une décision partout, pas qu'en France, partout en Europe, parce que, bah, c'est culturel, on le sait bien. Alors ouais, moi, hier, bah, même Chaperon, même l'un de nos plus mauvais arbitres, parce que on le sait tous, eh ben moi j'étais prêt à tout pour le défendre et ça m'emmerde pas d'avoir fait ça. Que notre système d'arbitrage depuis des années soit pas bon, bah on le sait, on l'a dit dans l'after, autant on a toujours défendu les arbitres, autant le système on a toujours nuancé, avec Gilbert quand t'es pas là, Jean-Louis, on a toujours critiqué, on sait très bien que le niveau est pas bon, qu'on tente de progresser. Avant, on n'avait aucun représentant à l'international, maintenant on en a un ou un et demi, en tout cas on avance, c'est pas brillant. Je le sais. Mais tout notre foot avance pas beaucoup. Il n'y a pas que nos arbitres qui avancent pas des masses. Alors nos chers présidents, au lieu de chialer toutes les semaines et de leur cracher dessus en permanence, même quand il s'agit d'un match de Gambardella, on va tweeter pour dire que l'arbitre a fait une connerie, eh ben, bah déjà qu'ils pensent déjà à gérer leur club, tu vois. Déjà qu'ils pensent un petit peu à se calmer au lieu de toujours hurler. Il y a 26 000 arbitres en France. 26 000. J'ai pris des notes, hein, parce que, hein, tu vois.
J'en ai jamais vu autant.
26 000 arbitres en France. 5 000 agressions par saison. Physiques, verbales. 400 sont jugées graves. Oui. On commence à noter aujourd'hui, en U13 et même en U11, des cas de plus en plus graves. Oui, ça se constate de plus en plus. Je sais que la culture profonde du foot, je connais l'histoire du foot, hein, partout, dans tous les pays, ça consiste à assimiler l'arbitre à un ennemi. C'est pas pour rien, il y a eu un film, ça s'appelle À mort l'arbitre, voilà, Jean-Pierre Mocky, allez le voir si vous l'avez pas vu. Voilà, on est dans cette idée que la passion débordante qu'il y a dans le foot fait que parfois, le seul responsable du résultat, on se dit que c'est l'arbitre, même trop souvent,
c'est plus facile.
L'arbitre, parce que c'est facile et parce que c'est une sorte de bouc émissaire, le mec qu'on est prêt à décapiter. Et que, on le sait très bien, parfois, hein, s'il n'y avait pas des barrières ou de la sécurité, on aurait un lynchage, ni plus ni moins, comme ça peut arriver sur les terrains amateurs, toutes ces agressions, les mecs dans les coffres de bagnole et tout, on sait que ça arrive.
C'est dans l'actualité, là.
De toute façon, c'est de pire en pire. Il y a une surenchère qui est de plus en plus importante. Joueurs, coachs, présidents, toujours prêts à flinguer les arbitres chaque semaine. Alors la vidéo doit être la solution, on l'a voulu, on l'a, on l'aura, ça doit calmer les gens. Je le dis, j'en suis convaincu, ça fait 1000 ans que je le répète, ça ne calmera personne tant qu'il y aura un homme derrière la machine. De toute façon, ça ne cessera pas. On a fait un essai la semaine dernière, dans les émissions, à écouter, il y avait autant de polémiques qu'avant. De la même façon. Donc c'est pas ça qui changera. On me dit oui, ça va réduire certaines. Ouais, ok, ça réduira. Mais ça empêchera pas le bordel, ça empêchera pas l'arbitre d'être un salaud. En fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être gommer la présence humaine. Tant qu'il n'y aura plus un humain, toi, peut-être on va mettre un robot. Eh ben là, bah peut-être que, je sais pas, peut-être que certains ils verront une solution.
On peut se plaindre du robot aussi.
Ouais, peut-être, parce qu'on dira que le robot a été acheté, j'en sais rien. Ou alors, il faut peut-être tout simplement que les gens qui passent leur temps à hurler sans les arbitres s'achètent un jour un cerveau, apprennent les règles aussi, ça peut être un début, parce qu'hier, le but de Nantes, n'est pas valable, alors qu'on nous a fait chier à dire qu'il était valable.
On nous a embêtés.
Hein?
On nous a embêtés, puisque donc on enlève les propos un peu hors du rythme.
Alors qu'on voit un révélateur qui est pas parallèle à l'annulation. On voit, mais on continue. Toutes les semaines, j'entends même des commentateurs, des confrères dire l'arbitre a fait une connerie, l'arbitre. Et puis quand ils voient le ralenti 4 fois, ah ben non, d'un coup ils atténuent leurs propos et tout. Ils disent mais fermez-la dès le départ, les gars. Stop, taisez-vous. Tu vois, j'ai pas dit fermez vos gueules. Taisez-vous, n'en parlez pas. Là, franchement, il faudrait tenir des stats, mais une fois sur deux, vous changez d'avis. Donc arrêtez.
On a fini.
En tout cas, si un jour, suite à un pétage de plomb comme hier soir, Aulas ou un autre président réussissent à avoir ma peau, puisque c'est ce qu'ils espèrent depuis pas mal de temps maintenant, tu vas me faire taire. Franchement, s'ils finissent par y arriver, parce qu'ils aiment bien téléphoner à nos boss, en tout cas, hein, voilà, parce que ça aussi, c'est de la bonne méthode, et ça en dit long sur la liberté d'expression que ces présidents veulent comme ça, visiblement, voir mourir. En tout cas, si vraiment un jour, suite à un pétage de plomb comme hier, où j'aurais dépassé les limites dans l'énervement et dans l'insulte, ils finissent par l'avoir, ma peau, j'aimerais bien que ce soit après avoir défendu un arbitre. Ça me ferait franchement plaisir.
Alors, ce qui s'est passé hier, effectivement, les choses à enlever, tu les as enlevées dès le début, donc à la limite, on va passer outre, effectivement, ces propos peut-être parfois déplacés, mais restons sur le fond, parce que c'est quand même intéressant d'y revenir, c'est pour ça qu'on le fait ce soir et qu'on t'a laissé la parole.
Ce qui est intéressant là dans la vie tranchée de Daniel, c'est qu'il fait finalement comme Monsieur Chaperon. Il y a eu peut-être un peu d'excès dans les propos, il s'excuse et c'est tout à son honneur. Après, sur le fond, moi je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose à dire. Je suis pas complètement d'accord. Et encore que tu as dit que le système en France avait un problème. J'ai un peu vécu mes années joueurs. J'ai un peu vécu à un moment donné le changement dans l'arbitrage. Tout jeune, quand j'ai commencé à faire mes premiers matchs en pro, t'avais encore pas mal de dialogue entre les joueurs et les arbitres. Alors c'était pas toujours très aimable. Parfois c'était rigolo. Parfois c'était juste constructif. Il y avait des excès dans les deux sens, mais ça se réglait beaucoup plus souvent en fais pas chier Pierre, il y a faute, je te dis qu'il y avait faute, je l'ai vu moi en tout cas. Et puis je sais pas un prénom par exemple Alain Sarr, tiens, à l'époque arbitrait non, je le touche pas. Bon voilà, et puis on se replaçait, ça passait beaucoup mieux comme
Oui.
En tout cas, il y a beaucoup plus de choses qui passaient. Et il y a eu un changement à un moment donné où on a voulu éloigner les deux acteurs, c'est-à-dire joueurs et arbitres, parce que ce sont deux acteurs. On peut pas effectivement mettre un robot à un moment donné sur un terrain pour arbitrer. Et il y a clairement eu une direction de prix par l'arbitrage français d'éloigner les acteurs. Et ça a été une grosse erreur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye de faire l'inverse, et tant mieux.
Oui.
Sauf que ça va prendre du temps, forcément, parce qu'il y a des acteurs des deux côtés qui ont pris des très mauvais réflexes.
Alors,
et ça, il va falloir être
mauvais
patient.
Réflexes, si c'est par exemple qu'hier, c'est ce que me dit Hub87 sur Twitter, pendant que tout le monde voulait la mort de Chaperon hier soir, en marge d'un match de Gambardella à Saint-Denis, un arbitre qui a pris 3 coups de poing.
Tu savais pas, tu l'as pris.
On y était effectivement. Oui.
Non, tu l'as pris, Daniel. C'est encore plus grave que ce qui s'est passé.
Moi, pour aller dans le sens de ce que tu dis, et je suis globalement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que hier on t'a assez peu repris, parce que sur le fond, on est d'accord avec toi. Hein. Je pense quand même qu'il faut différencier certaines choses. C'est-à-dire que un joueur qui a un coup de sang à la fin d'un match ou à la mi-temps, moi je le pardonnerais toujours plus qu'un dirigeant de club qui vient parler après un match et se plaindre de l'arbitrage. Valdemar Quita, moi il me fait marrer hier soir, mais à la réflexion, c'est dramatique de parler de l'arbitrage comme ça à la fin d'un match, d'autant que ça aurait rien changé à l'issue de la rencontre. Non, t'aurais sans doute perdu également.
Donc Et puis, son rôle, c'est de parler aux instances.
Et dire, voilà, parce que c'est ce qu'il dit quand même. À un moment, il dit, il faut créer une école privée d'arbitres, etc.
Il a voulu le dire avec beaucoup d'humour, mais sauf que.
Mon problème là-dedans, c'est qu'il
y a des répercussions.
Il y a une histoire de timing, en fait. C'est pas à ce moment-là, quand t'es écouté par la France du foot, qu'il faut le dire. C'est quand t'es en réunion, quand t'es au CA de la Ligue, quand t'es dans ces moments-là où tu peux faire bouger les choses. Moi, c'était ça le truc. Et après, effectivement, ce que tu dis, moi, je suis complètement d'accord. Il faut rapprocher les arbitres et les joueurs. Ce qui s'est passé hier, moi, je vais vous dire, que Chaperon tende la jambe comme il l'a fait, il se sent agressé, à la limite, pourquoi pas. Mais qu'après, dans la discussion, quand l'autre lui dit, non, je voulais pas vous faire un croche-pied, ça doit se finir avec une tape dans le dos, un sourire, et c'est fini, quoi. Normalement.
Et ce qui est intéressant, si je peux juste finir avec un truc, c'est que ce week-end, on a eu deux exemples diamétralement opposés. Un arbitre qui pète un plomb, effectivement, et où il n'y a pas de dialogue et ça va trop loin, du coup. Et de l'autre côté, Lyon-Angers, un arbitre qui siffle un peu trop vite une faute pour Angers. Je ne sais pas si vous avez l'action en tête. Il siffle une faute au milieu de terrain.
Ah oui.
Alors que sur le moment, ça donne une passe en profondeur pour Toko Ekambi qui part seul au but. On ne sait pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, il partait seul au but. Et tout de suite, l'arbitre a une réaction, c'est de lever les bras, vous regarderez, de dire « Oh !» J'ai merdé, mais parce qu'il a pris une décision en une seconde et que c'était un peu trop vite. Il s'est excusé auprès des joueurs tout de suite. Les joueurs n'ont pas parlé plus ça. Il s'est excusé auprès du coach d'Angers. Et du coup, Monsieur Moulin, le coach d'Angers, qu'est-ce qu'il fait dans la presse le soir du match quand on lui parle de l'erreur? Il dit, moi, l'erreur, elle est là, elle est flagrante, mais on est venu s'excuser tout de suite. Bah voilà, il y a aucun problème. Moi, j'en parle même plus.
C'est
pas
le bon
un problème.
Exemple.
C'est un bon exemple.
Hakim nous rejoint au 32-16. Salut Hakim.
Salut docteur.
Salut Hakim. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire sur l'arbitrage?
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Pierrot et bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Alors, moi, ce que je voulais en fait, c'était par rapport à... Bon, déjà, je voulais faire un premier aparté sur les chaussures de Pierre Ducrot.
Mes chaussures?
Ouais, les chaussures de Pierre Ducrot, elles sont beaucoup plus classe aujourd'hui que les baskets que t'avais hier, là.
C'était les petites Jordan hier, sans citer la marque. C'était des Jordan, tu rigoles ou quoi?
Mais comment on les voit sur BFM Sport, on les voit les chaussures?
De quoi?
Elles sont beaucoup plus classe que celles que t'avais hier.
Bah, aujourd'hui, t'as des petites boots en cuir. Hier, t'avais des petites Jordan, quoi. C'est des baskets. Ouais, c'est pas le même style.
Bon, très bien.
En plus, je suis amoureux des Jordan.
Excuse-moi de préférer celui-là, celui de ce soir. Hein.
Bon, d'accord, j'y penserai.
Ouais. Donc, ce que je voulais dire, donc, en parlant de pompes, en fait, je voulais tirer un petit peu les pompes de Daniel Riolo.
Ah.
S'il le permet.
Il le permet, t'inquiète pas pour ça.
Mais si tu veux, Hakim, j'aime pas qu'on le fasse. Dis juste que t'es d'accord avec moi, ça me fera largement plaisir.
Et justement, hier je n'étais pas d'accord avec toi. Et d'ailleurs hier j'ai appelé pour passer à l'antenne et je me rends compte qu'heureusement que je ne suis pas passé parce que j'aurais dit de la merde, comme on dit. Donc ma première position hier c'était Chaperon, c'est n'importe quoi, c'est pas son premier coup d'essai. Il a déjà fait avec Zlatan Ibrahimovic, qui se prend pour la star. Il l'a déjà fait avec Chafny. Je l'aime pas cet arbitre, etc., etc. Et on va dire qu'aujourd'hui, donc ce matin, en réécoutant un petit peu l'after, en podcast, je me suis aperçu de la position de Daniel. Alors hier, tu l'as très très mal interprété, hein, ta position de Daniel, là aussi il faut le dire, parce que tu es sorti de tes gangs, d'ailleurs tu t'es excusé aujourd'hui, c'est super, c'est très bien, on passe l'éponge, et voilà, ça se passe super bien. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, j'ai réécouté l'after, et j'ai aussi écouté une interview de Lucien Favre. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, très bien. Moi, il m'a plu beaucoup cette interview.
Il m'a beaucoup plu parce qu'il a pris avec légèreté, avec rigolade. Et puis il a expliqué que simplement qu'il était seul face à 22 joueurs, avec les supporters, avec les dirigeants, les présidents. Il sait qu'il a une pression extraordinaire sur les arbitres et qu'il a tout simplement pété un câble. Et en fait, c'est Lucien Favre plus Daniel Riolo qui m'ont fait changer d'avis sur, non pas sur Chaperon, mais sur les arbitres en général. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Daniel Riolo, s'il te plaît, quand tu as un sujet comme ça qui te tient à cœur. D'ailleurs, hier, Jean-Louis, en tout début d'émission, il le savait que tu n'étais pas bien. Il le savait qu'il fallait pas sortir. Et c'est sorti d'un coup, c'était un volcan. D'un coup, t'as pété un câble, t'as commencé à insulter tout le monde. Vous allez me briser, fermer ta gueule.
Oui, alors on va pas rappeler tous les propos, Hakim, si on les a retirés au début, c'est pas pour les répéter maintenant.
Voilà. Et donc, et la dernière chose aussi que je veux dire, en fait, c'est sur le... C'est sur le but des Nantais là qu'on est en train de dire qu'il était pas en position de hors-jeu. Aujourd'hui, j'ai vérifié, j'ai été voir un peu un livre que j'avais d'avant des règles du jeu. Dans les règles du jeu, c'est soit on est en position de hors-jeu et donc on est sifflé en position de hors-jeu, soit on interfère dans le jeu, soit on tire avantage de sa position de hors-jeu. Et hier, on peut clairement identifier que Emiliano Sala, même s'il n'était pas en position de hors-jeu, il met En gros, il interfère dans le jeu. Les deux autres joueurs qui sont hors jeu interfèrent dans
oui,
le
c'est
jeu.
C'est ce qu'on disait hier aussi, que, effectivement.
Bien sûr.
Voilà. On voit très bien que le gardien donc, du PSG, Areola, en fait, il a trois choix. Est-ce qu'il sort sur le premier joueur qui est hors jeu?
Non, mais t'as raison.
Le deuxième joueur qui est hors jeu.
Ça fait partie de l'interprétation.
Le troisième joueur. Mmh. Voilà. Non, mais... Donc, du coup, en fait, il n'a pris aucune décision. Mmh. Il a pris la quatrième décision, c'était d'attendre. Et quand tu attends, on sait très bien que si le coup de tête il est bien placé, eh ben, ça fait but.
Hakim, voilà. Merci.
Merci beaucoup, Hakim.
Merci d'être venu. Allez, salut Hakim, à bientôt dans la tour.
Et calme-toi, Daniel, reste calme.
Eh oui, c'est pas dit qu'un jour il répète un plomb quand même. Non, mais on n'est pas sûr.
Parle avec son cœur aussi, voilà. Non, mais ouais, faut aussi accepter ça parfois.
C'est sûr.
Lucien Favre, bah tiens, on peut l'écouter justement, l'entraîneur de Nice sur le sujet.
Bah, j'ai vu au ralenti. Il court là, pouf, d'un coup il se fait faucher, il est à terre. Après il a pas un bon réflexe.
Oui, alors ça l'a beaucoup fait marrer, hein, Lucien Favre.
Bah oui, okay. Mais comme nous tous, finalement, quand on l'a vu en direct.
Sur le moment, oui, on a beaucoup rigolé. Ouais. D'ailleurs, pas mal d'entraîneurs ont défendu Monsieur Chaperon, que ce soit Antoine Comboiré, que ce soit Christophe Galtier, qui se sont exprimés aujourd'hui en disant...
Je suis très content d'avoir vu aujourd'hui, j'ai entendu Eric chez Moscato, j'ai entendu finalement...
Bah oui, mais tout... Mais
finalement,
beaucoup.
On était quand même...
Mais tu sais quoi, Daniel?
Finalement, je me suis retrouvé, tout le monde dit, ouais, toi tu vas toujours à contre-courant, machin. Non. Parce que le courant, finalement, au final...
Non, mais tu sais quoi, quand tu parles de gens qui condamnent, qui insultent, les armées, etc. Est-ce qu'on doit finalement leur donner beaucoup d'importance? Parce qu'on sait que ce sont des gens qui réfléchissent pas beaucoup pour faire
non,
ça.
Non, mais Pierre, moi,
tu vois ce que je veux dire. Parce
je pense que
hier, quand tu pètes un plomb, qui avait condamné l'arbitre à ce moment-là? Pas tant de gens que ça. Pour l'instant, important en tout cas des gens qui réfléchissent un petit peu, qui prennent le temps. Tu
je
vois
pense que t'as pris aussi un peu l'exagération des réseaux sociaux à ce moment-là. Mine de rien.
Anticiper sur ce qui pouvait se passer sur les réseaux sociaux aussi.
On a l'impression que des choses prennent de l'ampleur parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, je sais pas si c'est la vraie
vie. On avait
parfois
eu l'affaire dans la journée
hier.
Protéger les joueurs là, oui. Je sais pas quoi, ce genre de truc. Il y a Kita qui commençait à chauffer. Il y avait le commentaire à la télé. Il y a effectivement les réseaux sociaux. Enfin, et finalement, on a quand même vu que il y a un vrai problème autour de ça. Quoi, c'était une condamnation unanime. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des anonymes. Il y a aussi des confrères, des gens qui immédiatement viennent, dégomment, assassinent, flinguent, chaperon, la casserole de trop. Hein.
Daniel,
allez,
un conseil, tu mets l'image et tu mets RMC avec. Nous, on n'a pas dit ça sur RMC hier.
Mais je peux pas, parce qu'il y a le décalage.
Ouais, c'est vrai.
Il y a le décalage. À chaque fois que je regarde les matchs là-haut, déjà, je dois m'isoler parce que sinon, j'entends le but 30 secondes avant, alors que le ballon, il est dans l'autre camp.
Allez, sur Twitter, il y a pas mal de messages, évidemment. Je citerai Sergio qui nous dit, t'as raison, Pierre.
C'est qu'avec ce décalage.
Et Jordan, c'est la vie.
Avec ce décalage d'image, il y a une anecdote très marrante la semaine dernière pendant Rennes PSG. Notre producteur Jérôme, grand fan du Stade Rennais, était devant la télé et il croit il y a un corner pour Rennes. Et il entend but. Il dit oh putain, on a marqué. En fait, le contre est tellement vite, il est contre pour le PSG derrière.
Ah ouais, c'est très bon. Et oui, mais tu fais bien de souligner ça parce que c'est quand même dur quand tu fais les soirées foot. Hein, parce que même pour nous, quand on est à l'antenne. Regarde Gilbert, quand il se fait une soirée Ligue des Champions, bah il vibre pas comme vous qui écoutez la radio.
Eh ben, il vibre déjà lors de la vidéo, à retardement.
Ouais, il vibre un peu avant. Quoi.
C'est ça. Bon, vendredi, il a pas vibré du tout avec le match de Strasbourg.
Oui, alors
c'est décalage ou pas décalage.
Alors que comme beaucoup, il voyait Strasbourg. Parce
il était d'une confiance.
Mais je crois qu'on... Strasbourg, c'est un peu l'équipe hype. Hein.
Non, mais attends,
on les voit tous un peu beaux. Et finalement, on s'est même pas soucié de Guingamp. Guingamp, c'était... voilà, entre petites équipes, le plus fort, c'est Strasbourg.
Guingamp, ils connaissent ce genre de match.
Ils manquent peut-être trois des meilleurs joueurs de Strasbourg, en plus, sur le match.
Mais ça change tout. Ça n'empêche pas que ça, on était un petit peu aveuglés par le fait que Strasbourg, à domicile, la Méno, machin. Truc.
Bon, je l'enlève des questions de l'after. Hein, Strasbourg-Guingamp, on a d'autres questions prévues.
Et
la vie tranchée de Pierre Ducrot. Dans une seconde, ça concerne l'OM et la deuxième partie de saison des Marseillais. À tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot dans l'after, comme tous les lundis, jusqu'à minuit à 23h, les drôles de dames, bien sûr. Dans 10 minutes, les questions de l'after. J'ai, par exemple, Toulouse doit-il se séparer de Pascal Duprat? J'ai Christophe Galtier, est-il l'entraîneur idéal pour
Duprat doit-il se séparer du TFC?
Bah oui, ce sera tout à l'heure. Et vous pourrez donner votre avis également sur le hashtag RMC Live. Et au 32-7. Moi, je pose les questions, après, vous vous débrouillez.
Je veux que Daniel s'énerve encore, c'est pas beau.
comme j'ai dit à Valentin Rongier cet après-midi, on n'est pas là que pour vous poser des questions gentilles. Donc,
ah, Valentin voilà. Rongier, il était dans chez Team Giga.
Ouais.
J'ai pas entendu, j'aime beaucoup ce joueur.
Ouais, bah écoute, il s'exprime très bien.
C'était... J'aime beaucoup, très intelligent. C'est sympa. Ouais, bon joueur de foot.
C'était sympa. Je vais demander si c'est à Nantes.
Je suis sûr
prochaine.
Que tu l'as pas demandé si, si Duprat devait quitter l'OM.
À Rongier, non.
Toulouse.
Non, à Rongier, non.
Ah ouais,
j'ai
voilà.
évité.
Voilà,
non, mais il était intéressant même sur le travail de Ranieri, en quoi c'est différent de celui de Conte Sao l'année dernière.
C'était, ah ouais, ça devait être intéressant à entendre.
C'était pas
effectivement.
Mal. Donc, avis tranché de Pierre. Alors, juste avant, on parle quand même beaucoup de chaussures. Hein. Donc, pour ceux qui nous regardent sur BFM Sport, on a, voilà, ah. les chaussures des deux protagonistes. Il y a les chaussures de Pierre, les chaussures de Daniel. Et comme ça, vous faites votre avis, vous qui nous regardez en ce moment même.
On peut faire du pied. Ah non, mais on voilà. en direct.
Alors, Pierre, c'est à gauche, hein, je précise bien.
Moi, c'est les petites boots marrons, là.
Voilà, exactement.
les boots marrons.
Ah, non, mais bon, comme c'est important maintenant, est-ce que la prochaine fois que tu feras l'after, tu feras attention aux chaussures que tu mets? Non.
Ouais, enfin, bon, Hakim n'aimait pas les Jordan, mais les Jordan, c'est quand même, il y en a beaucoup qui aiment, quoi.
Oui, oui.
C'est pas dégoûtant, petite paire de Jordan.
Voilà. Bon, enfin, bref. On y va, vite trancher de Pierre Ducrot.
Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi.
Non. Avec les Cranberries, peut-être?
Plus.
Plus. Voilà.
Plus.
Ah, ouais. Arrête avec les Cranberries.
Bah, non, mais bon, oui, bon, c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai en tête.
Ah, c'est pour ça que tu l'as en tête.
Le décès aujourd'hui de Dolores O'Riordan.
Ouais, je sais pas quel âge elle avait, mais elle était jeune, ouais.
Elle avait, 46 ans.
C'est ça.
Ah ouais, oui, c'est très jeune, même.
Bon, tu veux nous parler de l'OM, Pierre?
Oui, on avait à peu près le même âge parce que, à une époque plus jeune, je me suis occupé d'un groupe de rock et on a fait la première partie de ce groupe.
Ah, je croyais que tu avais failli avoir une histoire.
Bah, du coup, c'est peut-être la suite du concert.
La incroyable.
C'est la fin du concert,
non,
ça.
Non.
Attends, redis-moi quand même ce que t'as dit.
Il s'occupait d'un groupe de rock.
Ah, tu t'es occupé, t'as pas joué.
Non, je savais pas.
T'étais promoteur,
tu faisais quoi?
Bah,
organisé quoi,
qui s'occupe et tout quoi. Ouais. On fait la première.
T'étais Jean-Claude Camus quoi.
À l'Olympia de Cranberry, on avait fait la première partie.
T'étais Jean-Claude Camus.
Ouais, enfin. avec. C'est un petit peu loin de ce genre de résultat. Enfin bon, déjà première partie d'un groupe pareil.
C'est à l'Olympia.
Mais ça remonte.
C'est bon.
Il y a 20 ans, ce truc-là.
Et comment il s'appelait ton groupe?
Bon, c'est bon.
C'est toi qui vas là-dessus, ça.
Allez, c'est m'intéresse.
Bon, d'accord. Bon, l'OM, alors. On y va. Pierre.
Oh ouais, moi, je
deuxième
parler,
partie de saison.
Foot, on va s'embêter, hein. J'allais dire
un gros saison mot. Rock'n'roll pour l'OM.
Ah, ou très bonne deuxième partie de saison. Voilà. Moi, c'est un avis très positif pour l'OM. Droit au but, forcément, c'est le petit clin d'œil, mais j'aurais pu mettre droit au podium. J'avais envie de revenir sur l'OM, bien sûr, après leur match contre Rennes ce week-end. Alors pas pour une fois de plus prendre une boule de cristal, comme Daniel aime le dire, et deviner qui va être deuxième, qui va être troisième, qui va être quatrième, parce qu'on serait bien idiot d'essayer de deviner ça, vu les temps forts et les temps faibles de chacune des trois équipes à la lutte pour le podium depuis le début de championnat. Mais je vois pas mal de signes très positifs en ce moment à l'OM. Donc ce week-end, mais depuis quelques matchs quand même, quelques temps, je trouve que l'OM est sur une progression pendant que Lyon et Monaco, eux, sont peut-être sur des pentes un peu plus inverses. Ça changera peut-être en cours de la saison, hein, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je constate. Le premier signe pour moi, et le peut-être le plus important, c'est qu'il y a des leaders et de plus en plus qui se dégagent et qui font de réelles performances et de plus en plus régulièrement. Alors il y a ceux qu'on connaît, il y a Steve Mandanda, bien sûr, qui fait l'arrêt décisif qu'il faut ce week-end contre Rennes, mais on connaît Steve. Il y a Gustavo qui est la pierre angulaire de l'équipe, le vrai leader sur le terrain. Il y a un Rami qui pour moi derrière et a jamais été mauvais depuis le début de saison, mais là est de plus en plus bon et j'irais presque même à dire que je retrouve parfois une certaine assurance chez lui qu'on pouvait retrouver avant à Lille
dans la relance,
en Espagne. Dans les attitudes, tu sais, comme il est bon et de mieux en mieux, il retrouve cette assurance qui faisait aussi sa force à l'époque dans des interventions, t'as raison, dans des relances aussi parfois. On a un Thauvin qui est le leader offensif de cette équipe depuis le début de saison, mais qui le fait de mieux en mieux, je trouve. Il choisit bien ses moments, les changements de rythme, etc. On a un Ocampos, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais on lui reconnaît tous plus ou moins des carences techniques un petit peu, et je crois que Garcia en a fait un de ses leaders au niveau de l'état d'esprit et qu'il emmène pas mal de monde avec lui et que c'est très très important, surtout quand tu joues avec le maillot de l'OM et que t'as tout cet environnement autour. On a un Sanson.
Ocampos, c'est un joueur qui a vraiment une tronche à jouer à l'OM.
Bah oui, ouais, ça correspond. Ça correspond, c'est ça. Mmh. Et je pense qu'il donne, il transmet pas mal de choses à ses coéquipiers autour. Bien sûr. On a un Sanson qui, pour moi, est la complémentarité parfaite à Gustavo. Alors, ça veut pas dire qu'on condamne Anguissa, on condamne le petit Lopez, c'est pas ça. C'est que, il se dégage quelque chose de ce joueur. Il est souvent décisif quand il joue et j'ai l'impression que c'est très complémentaire avec Gustavo. Tous ces signes-là, ça commence déjà à faire une bonne base pour l'OM. On a ensuite un Germain qui semble un peu lancé, voilà, qui semble avoir lancé sa saison. Alors au détriment de Mitroglou, mais honnêtement, on en attendait pas grand-chose de Mitroglou, donc c'est bien que.
On en attendait beaucoup. Ah bah quand moi, il est arrivé quand même.
Ah moi j'en attendais rien.
C'était le grand transfert, 20 millions et tout.
Alors c'est beaucoup trop cher pour Mitroglou déjà. Et moi dès le départ je savais que ouais, ça allait être compliqué pour lui. D'entrée.
Ah ouais d'accord.
Ah non mais je savais que ça allait être compliqué pour lui dès le départ. Non,
mais ce que je veux dire c'est que le club il en attend pas... beaucoup quand il le prend.
Ouais mais pour moi c'est. C'est un autre débat mais c'est une erreur de casting pour moi.
Ah ouais.
Ouais pour moi Mitroglou peut être très bon ou en tout cas très décisif, même pas très bon mais très décisif dans une équipe qui domine son championnat des pieds à la tête. Voilà, c'est pour moi le genre d'équipe qu'il faut à Mitroglou.
D'accord.
Et c'est dans ce genre d'équipe-là qu'il a brillé. C'est beaucoup plus dur ensuite quand il faut aller chercher un peu plus les choses pour lui. C'est mon avis. En tout cas, Germain, lui, paraît lancé. On a une équipe de Marseille qui, sans vrai buteur en première partie de saison, a marqué quand même 19 pendant sur 19 de ses matchs sur 20. Donc on se dit que si en plus il y a un Germain qui arrive là-dedans et qui met une douzaine de buts, ça peut être pas mal dans la course au podium. On a un Payet qui est un peu mieux ces temps-ci. Alors je prends toujours des pincettes avec Dimitri Payet parce que j'ai toujours peur que ça reparte, mais s'il continue à être sur cette pente, cette progression, bah peut-être qu'on aura un Payet qui va arriver même à être bon régulièrement. Et
donc
là,
en
pareil,
gros, toi tu vois tous les signaux au vert, quoi.
Alors y a
sur le 11 qui a commencé à Rennes.
J'ai de plus en plus de leaders qui prennent leur place et qui font cette base de l'OM. D'autres signes, c'est recevoir tes deux adversaires directs au Vélodrome. L'air de rien, ça peut avoir une petite incidence. On verra où on en est à ce moment-là, mais ça peut avoir une incidence. Monaco est toujours là en ce moment, mais il me semble vraiment pas, comme je le disais au début, sur la même dynamique. Le fait que l'OM annonce avec certitude, alors j'espère qu'ils iront au bout, mais que personne ne quittera l'OM à ce mercato. Pour moi, c'est un signe fort, ça veut dire qu'on garde les forces en place et on bouge pas. On y croit. Ça, c'est des signes positifs envoyés à un groupe de joueurs et qui sont importants. Et puis, dans un week-end, où tu pouvais penser que Marseille allait peut-être chuter à Rennes parce que les Rennais leur réussissent pas très très bien cette saison, et où tu pouvais penser aussi que Lyon allait gagner contre Angers à la maison, c'est-à-dire que tu pouvais avoir un Lyon à 44 points si je me trompe pas, ouais, et Marseille à 38, et ben c'est tout l'inverse qui se produit. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder juste un peu le calendrier des 4-5 prochaines journées. Alors, j'ai regardé les 4 prochaines journées très très rapidement. Ça fait un calendrier pas top pour la SM. Très compliqué pour Lyon et plutôt favorable pour l'OM.
Eh oui, donc
je vous le fais rapidement. Hein.
Ouais.
Le pas top pour l'ASM, c'est Monaco-Nice, un derby, pas facile à jouer.
Mm-hmm.
C'est Monaco qui reçoit Metz, ça devrait aller, on est d'accord. Monaco qui va à Marseille, pas facile pour Monaco, pas facile pour Marseille non plus, mais c'est à Marseille. Et Monaco qui reçoit Lyon,
eh oui.
Pas facile. Le très compliqué pour l'OM, pour moi... Mm. Alors il y aura d'autres matchs derrière, hein, et puis il faut les jouer les matchs. Hein, voilà, c'est encore la problématique, c'est qu'il faut les jouer et parfois la logique n'est pas respectée. Pour Lyon, le calendrier c'est aller à Guingamp. En ce moment c'est pas un cadeau. C'est recevoir le PSG. C'est pas évident non plus. C'est aller à Bordeaux.
Ouais.
Et c'est donc aller à Monaco.
Ouais.
Ça paraît les quatre prochaines journées sont très compliquées pour Marseille.
Ouais, c'est vrai que.
Tu peux lâcher des points. Pour Marseille, le plus simple, encore une fois, j'insiste parce qu'on va me le dire sinon, mais il faut jouer les matchs, hein, bien entendu.
Oui.
Marseille-Strasbourg, ça paraît abordable pour les Marseillais. Caen-Marseille, avec tout le respect qu'on a pour Caen, ça peut être jouable pour les Marseillais aussi. Marseille-Monaco, qui est peut-être le match le plus dur pour eux, mais c'est au Vélodrome, il va y avoir un Vélodrome plein, etc. Et Marseille-Metz. Ce qui me fait dire que début février, tu peux peut-être avoir un ASM et un OL qui chasse l'OM et plus l'inverse.
Daniel, qu'est-ce que t'en penses?
Je suis absolument d'accord. Alors, c'est vrai que tu as bien fait de commencer en disant ça. Dans une saison, il y a effectivement les bonnes dynamiques, les temps forts et les temps faibles. C'est ce qui doit nous éviter de tirer des conclusions sur le long terme. Mais là, si on observe d'où vient l'OM, qu'on a mais assassiné de critiques fin août, surtout septembre, autour de la défaite contre Rennes, autour de ce mercato qui avait eu du mal à se terminer et qui s'est pas forcément super terminé, puisque bon, Metroblou, jusqu'à preuve du contraire,
c'est
un échec.
C'est pas une bonne affaire.
Mais peu importe, parce qu'ils sont passés au-dessus de cet échec-là, quand même. Exactement comme ils sont passés au-dessus de l'échec d'Evra, en trouvant une solution avec Amavi, et finalement en donnant les clés de l'équipe à un mec qui... Aujourd'hui, et pourtant moi, à chaque fois, je dis, quand je parle de la Ligue 1, je mets le PSG toujours à part. Parce que pour moi, il y a personne ne peut être, n'est comparable avec le PSG. Il y a trop de joueurs qui sont au-delà. Le seul, et c'est pas arrivé depuis des années, qui, à mon sens, non seulement à sa place au PSG, mais est un joueur de classe mondiale, et ben, il est à l'OM, et c'est une anomalie qu'il y soit, c'est Luis Gustavo. Bien une sûr. Anomalie parce que je le trouve trop fort par rapport à l'histoire actuelle de l'OM.
C'est un vrai bon coup de l'OM.
Voilà. C'est extraordinaire qu'il y soit. J'ai encore vu son match à mi-temps.
Ouais, il était énorme encore.
Mais c'est incroyable. Le ballon, la distribution, je cours, je long. Extraordinaire.
Enfin, puis le vice, le ballon.
Donc ils sont dans un temps fort. Et, moi, je crois pas les avoir vus aussi bons depuis le début de la saison.
Pour moi, c'est leur meilleur match.
Dans leur maîtrise, le plus complet, la première période, la façon qu'ils ont eu d'être très haut tout de suite, de boucler le match assez vite.
Des événements qui leur sont un peu contraires. Hein, le pénalty loupé, t'as pas mal de choses.
C'est un arrêt de malade.
Loupé. Et en tout cas, il n'est pas transformé. Enfin, bref, ils n'ont rien lâché derrière.
Ça fait 3-0 au final. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont coller des 3-0 comme ça à l'extérieur. C'est propre. Et ça correspond quand même à l'idée qui j'espère va perdurer d'associer Gustavo et Sanson. Ça apporte un message envoyé par Rudy Garcia, tiens, je vais arrêter de je suis à l'extérieur face à une équipe qui semblait un petit peu en forme ou pas déplacement facile à rien. Hein. J'associe les deux. Et en plus, ça se passe super
et puis
bien.
Une équipe contre qui t'as perdu deux fois.
Continue, Rudy. Je mets Valère Germain. Donc Mitroglou, c'est bon, c'est clair, t'y arrives pas. On est un club ambitieux. Je suis désolé, même sans t'as payé 20 millions, stop. Germain, ok, vas-y Germain. Parce que quand l'équipe joue haut, Germain, il est beaucoup plus à l'aise. Je termine juste sur Rami. Je suis content dès le début de la saison d'avoir dit que l'OM avait fait un bon coup en le prenant. J'ai toujours trouvé extrêmement injuste les critiques à son égard. Quand il a pas été bon dans sa carrière, vous regarderez, mais c'est que les clubs étaient très mal en point, qu'il était mal accompagné. Franchement, hein, c'est peut-être pas le meilleur défenseur d'Europe, mais c'est de très loin, vraiment pas le plus mauvais.
Il te décevra pas en fait.
Moi j'ai toujours aimé Rami comme défenseur central.
Il faut qu'on avance. Voilà. Petit bémol quand même juste sur l'OM, c'est le banc de touche. Hein. S'il y a des blessés, si le 11 qu'on a vu samedi est pas apte à certains postes clés, je pense défense centrale, même sur les côtés, là on va voir la blessure d'Amavi, comment elle est compensée.
Ouais.
Devant aussi, bon voilà.
C'est le cas pour Lyon aussi, quand tu le vois ce week-end, quand il manque.
Et même pour Monaco.
Et même franchement, Monaco aussi, c'est
toujours Monaco joue pas l'Europa League.
Toujours Paris mis à part, si la lutte c'est entre les trois, ce qui peut tomber sur la tronche de l'OM en blessure, ça peut tomber sur la tronche des deux autres et ça les handicapera de la même façon.
Allez,
regarde Monaco à Montpellier. Ils jouent pas avec leur vrai neuf avec Valdé, qui bouge, le milieu modifié, pas l'arrière droit, machin, boum, d'un coup c'est moins bien.
On les questions de l'after dans un instant et on a un cadeau tout de suite à vous faire sur RMC, un bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur un site de e-commerce pour tenter votre chance. Vous envoyez RMC par SMS au 732-16. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot, nos drôles de dames, comme tous les lundis, sont en salle de maquillage. Ils se préparent avant d'intervenir à 23h. On commencera par l'Angleterre avec cet énorme Liverpool-Manchester City et la vie tranchée de Philippe Auclair autour de l'absence de Coutinho désormais et la possibilité de voir Liverpool aller très loin en Ligue des Champions. Les questions de l'after tout de suite pour balayer le reste de l'actu du week-end. Toulouse doit-il se séparer de Pascal Duprat? Défaite 2-0 à Saint-Etienne. Toulouse avant-dernier, premier relégable donc avec 19 points seulement.
Oh, c'est dur ça.
Ah bah,
Bah, déjà, je lui souhaite de se remettre de, de ses petits problèmes de santé. Ensuite,
quelque chose est cassé, on a l'impression quand même.
Oui.
Est-ce qu'il fallait, si tu veux le faire, est-ce qu'il faut pas le faire?
Mais de toute façon, ça dure jamais longtemps avec lui. Et le problème, c'est que tu te sépares de lui. Mais encore une fois, il faut vraiment qu'on comprenne. Et un soir, il faudra peut-être se pencher plus sur le dossier dans une émission. Il n'y a plus d'entraîneurs en France. Il y a une pénurie d'entraîneurs en France. On ne sait plus quand aujourd'hui, quand t'es président, tu veux nommer un entraîneur, tu ne sais pas quoi faire. Mmh. Tu ne sais pas vers qui te tourner.
Parce que les clubs
donc
français.
Donc c'est un souci.
Ouais, mais parce que les clubs français n'ont pas envie d'aller chercher de nouveaux entraîneurs ailleurs. C'est ça aussi.
Et je pense aussi parce qu'ils ont pas envie
de rappeler des gens de plus en plus. Regarde Saint-Etienne, ils ont essayé le truc, ça a pas fonctionné, donc ça va refroidir. Il y a deux ans, c'est la mode, on en prend.
Alors je veux bien Daniel, sauf que
on en prendra plus.
Je suis d'accord avec toi, sauf que l'exemple que tu me cites. Pour moi, c'est pas la faute de l'entraîneur aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé dans une structure où c'était compliqué pour lui.
Oui, c'était vérolé, les soucis, c'était compliqué. En fait, là, le truc, c'est que qu'ils aillent en chercher à droite, à gauche, machin. Ok, je veux bien. Mais déjà, il faudrait qu'il y ait des vocations, que des mecs aillent passer les diplômes et que les mecs soient bons. En fait, c'est tout notre système de formation des entraîneurs qu'il faut qu'on revoie.
Oui, c'est autre chose.
Ça, c'est un vrai souci.
Ça, je suis d'accord. Bon, mais le jour où tu te saisiras du problème, faudra attendre encore peut-être 10 ans avant qu'il y ait des bons entraîneurs.
Alors donc,
qui sortent de là, quoi.
Il faut garder du
aujourd'hui, tu dois aller chercher autre chose.
Je reviens à ma question de base. On enchaîne les questions, mais juste avant, c'est terminé au basket. Le match de Pro A du lundi soir, c'était Gravine Le Portel ce soir. Antoine Vasseur, salut Antoine.
Salut, effectivement, on a vécu une fin de match absolument surréaliste puisque les Gravelinois comptaient 16 points d'avance au début du quatrième quart
d'heure. C'est fini.
Et ils ont perdu. Oh. Ils ont perdu les Gravelinois. Ils ont inscrit seulement 2 petits points lors des 15 dernières minutes. Et donc, ce sont les joueurs du Portel qui se sont imposés 63-55 ici à Sportica, et les joueurs du Portel qui gagnent 5 places au classement de la Pro A, ils sont ce soir 10e du classement.
Très bien, merci Antoine. Je pense que c'est comparable à la couronne PSG peut-être.
Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Désolé Pierre.
Il y a tellement d'exemples au foot de matchs avec des remontées
sur un match
bien plus récente et non, d'aller chercher ça, c'est vraiment dégueulasse.
Je sais pas, moi j'essaie de comparer pour que les gens qui n'aiment que le foot comprennent ce que c'est que
pourquoi
de
personne sauter sur les corners.
C'est vrai.
Non, parce que pendant des années, j'ai entendu qu'on chiait sur les changements de Luis. Pourquoi pas, effectivement. Ça nous a pas aidé. Non, mais ok, très bien.
Il a sorti tous les attaquants pour mettre des
défenses. Ok, très bien.
Ouais, on avait du mal à garder le ballon.
À l'époque, ça se faisait un petit peu encore. Hein. Ça, maintenant, c'est un petit peu changé, mais il y avait la tendance.
Ouais, ça s'est fait hier avec
Corinne. Non, mais t'as raison. Sur le fond, voilà. T'as raison. On doit pas prendre ces buts-là quand même.
Pourquoi sur le corner, personne sautait?
Que veux-tu que je te réponde?
Là, je sais pas.
On avait rien mangé spécial qui nous empêchait de sauter, donc on pouvait sauter.
Les pieds, on a l'impression qu'ils étaient collés à la pelouse.
La boue, mais parce qu'il pleuvait.
C'est ton pire souvenir.
Ah ouais, c'est mon pire souvenir. Ah oui, de loin. Ah ouais, de loin.
En plus, la saison était difficile.
Celui-là, mais et un autre, mais c'est pas la même. La finale de Coupe de France contre Guignon, ça c'est terrible aussi. Mais c'est pas la même chose. Là, tu savais que tu pouvais jouer 6 heures, que t'allais pas marquer.
Guignon.
Ah ouais. Et ils font 2 contres et ils marquent 2 buts. Tu savais que ça se finissait comme ça, quoi.
Ou alors que la Corogne t'y a cru.
À la Corogne,
d'autant plus que c'était Ligue des Champions en 2 phases.
Exactement.
Il y avait les 2 phases de poule, peut-être des gens
qui ont là-bas ou un nul ou
le PSG est dans une sale saison.
Je crois qu'un nul, ça nous suffit.
Oui, parce que Louis arrive en milieu de saison.
Et la possibilité de redresser le truc de façon miraculeuse arrive avec le match nul. Il doit y avoir un match nul à San Siro, non?
On fait un partout à Milan.
Bellarbia qui lance Anelka là, voilà.
Ouais, c'est ça. On fait un partout à Milan.
Au parc, il y a 1-0 contre Laurent Robert là qui met une super patate là. Toujours contre Milan et après Rabé il se cagade complet et Milan égalise. Contre, donc tout ça c'est mort. À moins de gagner à la Corogne.
Ouais. Il y a ça, il y a pas un match aussi contre Galatasaray ou un truc comme ça au parc.
Non, c'est la phase.
Si tu bats la Corogne. C'est miracle parce qu'à l'époque ils sont injouables et surtout au match aller, ils vous ont dérouillé la gueule comme c'est pas permis.
Si. Ils ont fait un bon match.
Physiquement ils vous ont marché dessus. Et tu te retrouves à faire ce match avec ces corners là où Pandiani.
Alors que nous on met des super beaux buts. Laurent Leroy il nous met 2 en rouge.
Alors moi j'ai envie de dire un truc quand même.
Et là il y a pas un mec qui saute.
Et alors tu vois, effectivement on a parlé des changements de Luis tout le temps et tout, mais n'oublions pas que vous êtes en position quand même de mener 3-0. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu deux
on
trois
pas
bonnes
en position, on mène 3-0.
Ce que je veux dire, c'est que vous êtes en position de subir cette remontée incroyable. C'est-à-dire que vous avez mené 3-0 à la Corogne. Ça, c'était pas rien. Et ça veut dire qu'il y avait deux, trois
et
choix
que,
qui
en
étaient
plus,
bons.
Au crédit de Louis, la compo est surprenante. Et c'est ça qui perturbe totalement la Corogne.
Oui, enfin, aujourd'hui, t'as un coach qui fait ça. C'est vrai qu'on, tout le monde lui tombe dessus, quoi.
Il a mis du croc avant ça.
Honnêtement, je suis d'accord avec toi. C'est pas pour ça qu'on a encaissé les buts. Parce que sur les coups de pied arrêtés, on pouvait les prendre.
Mais à un moment donné, c'était sur les coups de pied arrêtés. Oui, vous les prenez, d'accord. Pourquoi vous sautez pas?
Alors, je suis d'accord, sauf que les coups de pied arrêtés, les corners et les coups francs qui sont créés, pourquoi t'en prends 7-8? Parce que t'arrives plus
ça,
à sortir un ballon et à garder
ça. Je suis d'accord, mais.
Bon, allez, on va pas refaire.
C'est désagréable en plus. Ah, mais ça se passait très bien.
Quand tu parles un peu de ta carrière, Pierre et tout.
Ouais, enfin, ça pourrait pas être une rubrique dans l'after.
Ça s'appelle After Story, je crois.
Non. De ressortir ces matchs-là avec les questions que j'ai posées à Pierre. Bon, ce sera pas toujours Pierre, hein, s'il a pas fait tous les matchs de la vie du foot.
Mes questions ont pu.
Mais un soir, et on prend un acteur dans un match, on lui dit, mais putain, pourquoi vous avez fait ça?
Pourquoi
vous avez pas sauté sur les canons?
Non, mais là, on a d'autres questions en plus sur, mais bon, là, je voulais quand même.
Ça, c'est une bonne idée, ça, tu notes, ça?
Ouais.
On prend des matchs de Coupe d'Europe et tout, mais il faut vraiment décortiquer le truc, pas simplement le souvenir.
Des matchs,
des matchs un peu, avec le contexte et tout. Parce que là, gagner à la Corogne, ça me paraissait injouable et vous avez failli.
Ça me plaît bien.
Putain, on a failli. Ouais.
Mais écoute, on envoie un texto à Gilbert. Ça peut le faire.
Propose.
Et bon, après, il faut des matchs marquants. Il y a des trucs à dire.
Enfin, attends, d'être scellé sur ton sort quand même. Ouais, on va proposer ça.
Ça devrait aller. On va trouver des matchs de Coupe
d'Europe. Non, mais sinon, on invite Louis et on refait la Corogne avec Louis.
Louis, j'en ai déjà parlé.
Ça peut être rigolo.
Excellent. Ou pas.
Non, on peut refaire d'autres trucs qu'il a fait, tu vois.
Ah, puis il en a fait quelques-uns, lui.
Ouais, effectivement. Bon, bah, du coup, on a zappé mes questions de l'after. Vous êtes quand même
pas. On s'en est bien sorti d'ailleurs.
Ntep a-t-il raison de préférer Saint-Etienne à Nice, parce qu'on vous a mis sur rmcsport.fr plein d'infos, puisqu'Entep a choisi Saint-Etienne, notamment grâce au coup de fil de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur stéphanois, qui lui a dit tu seras mon leader d'attaque, alors que Favre à Nice lui a plutôt dit qu'il sera en concurrence avec Pléa qui jouera sur le côté, avec Lesmelou aussi. Donc
moi je trouve que c'est délicat. Moi je préfère l'attitude de Favre, qui me semble tout à fait logique. Je veux dire que t'arrives, tu viens, enfin, j'ai jamais compris, moi, qu'un entraîneur pouvait garantir à un joueur du temps de jeu tu dois prouver tout. Là, ça veut dire, s'il a dit ça, ça veut dire qu'à Saint-Etienne,
qu'il va arriver, donc, sera le patron, quoi.
Ok, donc Bamba va partir, parce qu'il lui faut le côté gauche en haut.
Mais il faut vraiment qu'on...
Que Cabella doit jouer au milieu.
Enfin,
comment tu peux dire à un mec ça? Moi, j'arrive pas à comprendre ça.
Ah, on lui donne les clés, quoi. Voilà. Bon, on n'a pas le temps de parler de Lucas.
J'avais tout faux sur mon avis tranché que j'avais donné sur Saint-Etienne, où je pensais que personne n'allait arriver à Saint-Etienne.
Alors là, t'as eu tout faux. Voilà, mais t'as eu bon sur Nice qui remonte.
Ouais, ça c'était
vrai. Sixième à 3 points de Nantes, désormais. Allez, dans un instant.
Ça, c'était le coup énorme.
Les drôles de dames. Ah bah, il a pas fait que la Corogne PSG dans sa carrière, Pierre. Il connaît un peu le foot quand même. Allez, à tout de suite dans l'after.
Nice peut redescendre à la 8ème place.
A tout de suite.
RMC, le super football show, l'After Foot.